Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello à tous, ici Pauline Agneau et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Qu'est-ce que le Gratin, vous allez me dire? Eh bien, ce sont des conversations avec des personnalités qui sont parmi les meilleures au monde dans leur domaine, que ce soit en pâtisserie, en karaté, neurosciences, management, cyclisme, running. Je reçois aussi des CEO de boîtes du CAC 40 ou des fondateurs de start-up. Et au final, j'interview des personnalités qui ont un parcours exceptionnel pour comprendre leur cheminement et ce qui a fait la différence pour eux. Mon but, c'est de vous aider via ces mentors virtuels dans votre développement personnel et professionnel à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Héloïse Parizet. Héloïse qui est actuellement chercheuse dans le domaine du cancer. Vous pourrez la retrouver tout simplement sur LinkedIn via le nom Héloïse Parizet. N'hésitez pas d'ailleurs à lui faire un petit coucou, je suis sûre que ça lui fera très plaisir et elle a accepté de faire cette interview à distance. Donc encore une fois, je voulais la remercier. Héloïse fait partie de ces quelques personnes qui grandissent avec une véritable passion. Quelle chance! Dès son plus jeune âge, elle se passionne pour la science et plus particulièrement pour la biologie. Très tôt, ce qui l'intéresse, c'est la recherche, l'idée d'avoir un impact, de pouvoir, via son travail, via son intelligence, aider des milliers, voire des millions de personnes à vivre mieux. Héloïse quitte donc son Alsace natale pour des études dans une école d'ingénieurs, puis se spécialise en biotechnologie, puis en génie médical. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire concrètement, j'en sais fichtre rien, mais c'est quand même, je trouve, pas mal la classe. Après ça, Héloïse ne perd pas son temps et devient chercheuse au commissariat à l'énergie atomique en France. Elle y travaille en particulier sur une technologie permettant de dépister précocement certains types de cancers. La mission qui la fait vibrer, celle qui la porte et lui donne envie de se battre pour la science. Depuis quelques années, Héloïse s'est envolée vers la NASA, aux États-Unis. Elle y travaille sur l'impact des rayons cosmiques sur l'organisme des astronautes en mission de longue durée. Ce que j'ai trouvé d'absolument fascinant avec Héloïse, c'est que sous ses airs de jeune fille sage, Héloïse ne veut pas rester à sa place. Elle est investie d'une vraie mission, utiliser la science au service de l'humanité. Une mission bien plus grande qu'elle, que vous, que moi, et qui la porte et lui fait faire des choses extraordinaires. Un bel exemple pour toutes celles et ceux qui ont parfois la crainte de montrer trop d'ambition. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Héloïse Parizet. Salut Héloïse et bienvenue sur le gratin.
Bonjour Pauline, merci de m'avoir invitée.
Écoute, je suis ravie. En plus, tu es en Californie, on a 9 heures de décalage horaire. Je ne fais pas souvent des interviews comme ça avec des personnes de l'autre côté du monde, donc ça me fait particulièrement plaisir. Et je te remercie d'avoir accepté de prendre un petit peu de temps sur ton samedi pour répondre à toutes mes questions. Pour commencer, en fait, je voulais simplement en fait commencer par le début, si ça te va, et parler un petit peu de ton enfance et notamment de ce qui t'a donné vraiment l'envie de te passionner pour la science et en particulier pour la biologie. J'ai lu pas mal de choses dessus, mais mine de rien, on va en parler après. Les femmes sont pas très représentées dans le monde de la science, et donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de commencer par là, de commencer en fait par cette flamme. Où est-ce qu'elle est apparue? Comment est-ce que ça s'est passé?
C'est vrai, et a priori, il n'y avait rien qui me prédestinait à une carrière de scientifique. Je viens d'une famille plutôt d'artistes, donc dans mon entourage, il y avait des peintres, des sculpteurs, des gens qui faisaient du théâtre, des profs. J'avais personne dans mon entourage qui était vraiment dans le monde des sciences, mais j'appréciais les sciences à l'école. En fait, j'appréciais un peu toutes les matières. On peut dire que je travaillais assez dur.
J'étais plutôt du style bon élève.
C'est ça, j'étais plutôt du style bon élève à essayer de faire plaisir à tous
les. La première de classe que personne ne supporte, c'est ça.
C'est ça. D'ailleurs, on se moquait bien de moi avec mon petit vélo rose et mon gros sac à dos, tous mes livres toutes petites et plein de livres sur le dos. Mais c'est vrai que j'aimais bien toutes les matières et d'ailleurs. Par la suite, j'ai revu des camarades de l'époque qui étaient en fait assez surpris que j'ai finalement fait le choix des sciences, parce que ça faisait aussi du théâtre. Ça me plaisait bien, j'étais une grosse lectrice aussi. Et en fait, à l'école, je veux dire, dans le système français, c'est vrai qu'en général, pour les étudiants qui aiment un peu tout, qui touchent à tout, on a plutôt tendance à conseiller de se lancer dans les sciences. C'est vrai que souvent, on a tendance à penser qu'il y a plus de débouchés ou alors que les passerelles seront plus faciles en ayant un bagage scientifique. Donc, du côté de l'école, j'étais plutôt encouragée à continuer dans cette voie. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'avais envie d'en savoir plus, surtout du côté de la médecine. Pour moi, en fait, ça a toujours été ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire faire en sorte que chacun puisse avoir une bonne santé. Je pense que c'est vraiment la base pour pouvoir s'épanouir et totalement se déployer dans sa vie. Donc, je savais pas forcément exactement comment contribuer à ça. Au départ, j'avais pensé à des études de médecine et c'est vrai que j'ai eu un peu peur de la compétition qu'il peut y avoir dans ces études-là.
Et du coup, qui n'est pas très sympathique en plus, il n'y a pas d'entraide, excuse-moi de t'interrompre, c'est souvent c'est un peu une espèce de petite guerre, hein, quoi. Enfin, je crois que voilà, c'est pas des études faciles.
C'est vrai, et sans vouloir donner des a priori négatifs, c'est vrai que moi, j'ai pas suivi ces études-là, donc je ne peux pas totalement juger, et je connais des personnes à qui ça a très bien convenu, mais c'est sûr qu'il faut passer par cette première année où il y a un concours, et en fonction de ton classement, ben, tu peux ou non poursuivre dans cette voie, et ça peut être quand même difficile à surmonter ce type d'échec. Donc, et donc, voilà, j'ai exploré un peu toutes les options. C'est vrai que j'avais pas du tout un parcours tout tracé en pensant « Ok, je vais être chercheuse, c'est ça que je veux faire. » J'avais même pas vraiment d'idée de ce que c'était être chercheur. Quand t'as personne dans ton entourage qui fait ce métier-là, difficile de savoir concrètement à quoi ça correspond.
Et excuse-moi de t'interrompre à nouveau, mais vers quel âge t'as commencé à te formuler que tu t'envisageais la recherche ? Parce qu'effectivement, je trouve ça hyper intéressant, et moi j'étais ravie de t'avoir d'ailleurs sur le podcast pour ça, parce que t'es ma première chercheuse. mais tu vois, c'est pas des métiers, comment dire, auxquels on pense spontanément quand on est plus jeune, je trouve, si on n'a pas quelqu'un dans son entourage. Et toi, en plus, tu n'avais personne dans ton entourage qui avait fait de la recherche. Donc, je m'étais demandé comment t'en étais arrivée un petit peu à cette conclusion.
C'est vrai. En fait, c'est venu assez tard, je dirais, pendant mes études d'ingénieur, en fait. Au départ, j'ai commencé par une école d'ingénieur. Et c'est là où, en fait, on est très exposé à des chercheurs parce que c'est nos profs. Et on se rend compte de ce qu'ils font. On est plus aussi exposé aux articles scientifiques, à ce monde-là de la recherche. Et ça m'a vraiment intéressée. J'ai voulu en savoir plus, à la fois en France et aux États-Unis, parce que c'est quand même des systèmes bien, bien différents. Et donc, je suis allée un petit peu, j'ai pris chaque opportunité que j'avais pour essayer de découvrir un peu plus, de rentrer dans ce milieu-là et de voir si ça me correspondait ou non.
D'accord. Hyper intéressant. Et ça, c'était vers quel âge, du coup,
Et ça, c'était vers 19 ans. Ouais, 19-20 ans.
Donc, quand même, encore assez jeune. Et donc, tu décides, si je ne me trompe pas, hein, j'ai fait mes recherches, mais je peux me tromper, bien sûr, de te spécialiser assez tôt donc, dans l'impact des radiations cosmiques sur le cancer, si je ne me trompe pas.
Oui, alors ça, c'est un sujet sur lequel j'ai commencé à me pencher il y a 2 ans environ, 1 an et demi.
D'accord.
Par contre, tout de suite, dans le choix de mon sujet de thèse, j'ai décidé d'aller plus dans la recherche sur le cancer et plus particulièrement d'essayer de trouver des biomarqueurs précoces de cancer. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une biopsie et de détecter la tumeur à un état déjà assez avancé, essayer de trouver, par exemple, dans le sang, dans l'urine, dans la salive, d'essayer de développer des tests rapides et précoces pour essayer de voir les tout premiers signes de cancer et donc pouvoir les soigner plus rapidement. Et donc ça, c'était...
Donc un diagnostic hyper avancé, ouais.
Exactement, hyper avancé. C'est vrai que c'est des thématiques qui me plaisent parce que c'est vraiment à l'interface entre tout ce qui est nouvelles technologies et biologie où en fait on va essayer de mettre à profit tout ce qu'on connaît en microélectronique, en microfluidique, en physique, pour essayer de faire avancer la biologie, le domaine biomédical, et vraiment au service du patient. Et donc, d'un point de vue scientifique, c'est passionnant, et d'un point de vue application, ben, c'est vraiment...
Oui, t'as un impact, bien sûr, j'imagine, enfin, on a tous des personnes dans notre entourage, en plus, qui malheureusement ont vécu des cancers, et c'est vrai que se dire que tu peux t'attaquer à un tel sujet... Enfin, voilà, de santé publique, j'imagine qu'au quotidien, tu dois avoir une espèce de... Voilà, enfin, tu as une mission qui doit t'emporter, quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est une des raisons pour lesquelles tu as choisi cette thématique-là spécifiquement. Tu me disais quand tu étais plus jeune donc, que tu t'intéressais à la médecine. Mais voilà, qu'est-ce qui a fait que tu t'es penchée spécifiquement et, sur le choix, en fait, de l'étude du cancer?
C'est ça. Je pense que, comme tu dis, on a malheureusement tous dans notre entourage... des personnes qui souffrent. Et ben moi, quand j'étais petite, en fait, je passais beaucoup, beaucoup de temps chez mes grands-parents parce que j'étais un petit peu un accident. Ma maman m'a eu à 21 ans. Du coup, ben, mes grands-parents, c'était un peu ma deuxième famille. Et mon grand-père, ben, quand j'étais petite, souffrait d'un cancer du côlon. Et c'est fort, en fait, de se dire que ben, ce que je fais aujourd'hui, peut-être que... Ça pourra éviter à les enfants du futur de voir leur grand-père souffrir et essayer de faire en sorte que les cancers qui sont incurables aujourd'hui puissent être soignés, être détectés prématurément dans le futur. Et donc, c'est vrai que la médecine, c'est quelque chose qui évolue d'un côté tellement rapidement, et d'un autre côté, il faut vraiment des milliers de chercheurs dans le monde entier pour réussir à développer vraiment un traitement efficace et un diagnostic plus performant.
Je vais te poser une question qui est certainement très stupide, mais qui m'intéresse énormément. Donc, je m'excuse par avance. En fait, j'ai entendu dire par des personnes qui sont scientifiques, et moi, je ne le suis pas du tout, que le milieu médical, la biologie, en fait, c'est l'une des choses les plus compliquées. Et qu'en fait, paradoxalement, on est très avancé sur, des nanotechnologies, enfin, plein de technologies, on va dire, plus mécaniques. Mais que sur tout ce qui est biologique, en fait, on est encore, même si on est très bon, et je ne veux pas du tout que tu prennes mal, hein, mais je veux dire, il y a encore énormément à faire et que c'est vraiment le plus compliqué. Je ne sais pas si ce que je te dis résonne en toi ou si en fait tu vas me dire c'est absurde, mais je trouvais que c'était très intéressant justement de se dire que finalement, le médical ou la biologie est un milieu scientifique sur lequel il y a encore énormément, énormément à faire. Alors, non seulement avec un impact, mais en plus, de façon générale, avec probablement des découvertes encore à venir colossal, quoi.
Ah oui, mais je suis entièrement d'accord. La biologie, tout ce qui est organisme vivant est extrêmement complexe et c'est des choses qu'on n'a pas créées. Donc, c'est un domaine où on essaye de comprendre, mais on essaye d'apprendre, de trouver des mécanismes, de trouver une logique. Et en fait, contrairement aux technologies, ce n'est pas quelque chose qu'on crée et qu'on décide de A à Z. C'est quelque chose qui nous a été donné. C'est le fruit de l'évolution et une évolution sur des millénaires. Et maintenant, on essaye un petit peu de décortiquer tout ça et à notre échelle, de pouvoir essayer de faire sens à tout ça. Et en fait, c'est vrai que, par exemple, le cerveau, on essaye de reproduire les mécanismes du cerveau pour faire des supercomputers ultra performants. Ouais. Mais on en est, je pense que le fonctionnement du cerveau, on en est peut-être à 1% de la compréhension qu'on pourra en avoir dans des centaines d'années. Donc effectivement, c'est un domaine qui est en constante évolution et qui prend du temps parce qu'à chaque fois, chaque chercheur va se spécialiser et se concentrer sur une toute petite partie de cet immense édifice et ensuite essayer de faire sens à toutes ces connexions qu'on a dans notre organisme qui est effectivement extrêmement complexe.
Ouais, et puis j'imagine aussi que, comme tu le disais, comme en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui est la cause, qu'est-ce qui est l'effet, parce que finalement, c'est pas nous qui l'avons créé. On ne sait pas quel était l'objectif nécessairement de telle ou telle partie du corps. Alors, une fois de plus, hein, j'y connais rien, mais je peux imaginer qu'en fait, parfois, tu interprètes mal. Je ne dis pas toi au sens toi, Héloïse, mais on peut interpréter mal quelque chose alors qu'en réalité, ce n'est pas là pour ça ou que ça n'a plus de vocation ou qu'en plus, comme il y a eu l'évolution, bah, finalement, ça a changé de vocation. Enfin, je peux imaginer qu'il y a une complexité qui est voilà, très, très différente en fait, de celle qu'on va avoir sur des objets créés par l'homme.
C'est exactement le cas. Et d'ailleurs, c'est assez drôle en étant physicienne de formation. En physique, il y a des phénomènes, il y a des équations, il y a des modèles et tu fais une expérience et tu vas avoir un résultat qui rentre exactement dans ton modèle. Ou alors, si ce résultat ne correspond pas, ça veut dire qu'il faut que tu remodélises. Mais une fois que tu as compris le mécanisme, ça s'applique universellement. Alors qu'en biologie, tu fais la même expérience deux fois, tu vas avoir des résultats complètement différents. À chaque fois, tu peux donner une autre interprétation et le même résultat peut être interprété de mille et une façons. Vrai que ça rend la discipline encore plus intéressante, mais il faut rester ouvert et pas se démoraliser, et c'est parfois pas évident parce que c'est des recherches qui prennent des dizaines et des dizaines d'années.
Ouais, bah justement, je voulais t'en parler parce que on sait bien que la recherche, de façon générale, ce n'est pas des métiers faciles et qui prennent du temps. Mmh. Et là, en plus, sur des sujets comme ceux-là, j'y connais rien, mais j'imagine qu'on n'est pas encore tout à fait prêt avant de résoudre ces soucis. En général, ça prend énormément de temps. Et donc, je voulais te demander, travailler sur des sujets aussi long terme, ça nécessite d'être à la fois patient, passionné, des sujets qui nécessitent des années de travail. Et c'est quelque chose en plus qu'on ne connaît pas trop, si tu veux, dans le monde du privé où en général, faut avoir des résultats rapides, etc. Donc, je voulais te demander si la lassitude parfois est quelque chose qui arrive et peut-être comment éviter justement tout mouvement de lassitude, comment éviter parfois d'être frustré parce qu'on a l'impression que ça avance pas assez vite et qu'on aimerait juste secouer le cocotier et faire en sorte que ça marche.
C'est vrai. Non, c'est vrai. Et c'est d'ailleurs, en tant que scientifique, en tant que chercheur, c'est une question qu'on se pose souvent. Hein. Comment ne pas se laisser démoraliser, et en particulier par le fait qu'on a vraiment besoin de se battre pour obtenir des financements. Les financements qui sont donnés à la recherche ne reflètent clairement pas le besoin. On a constamment besoin de déposer de nouveaux projets, de faire des propositions en fait. Et ensuite, on attend tout simplement la sélection de voir si notre projet va être soutenu ou pas. Et je dirais que dans moins de 10% des cas, on est effectivement soutenu. Donc, il faut continuer à constamment proposer de nouvelles thématiques, de nouveaux sujets, jusqu'à ce qu'il y en ait finalement un qui soit sélectionné. Je dirais qu'une fois qu'on a les financements, on est tellement content qu'on donne tout ce qu'on peut pour essayer d'avancer le plus rapidement possible. Mais je dirais que la lassitude, ce serait plus une lassitude dans le sens où il y a beaucoup d'administratifs c'est quand même un milieu
qui... Tu ne te concentres pas forcément suffisamment sur ce que tu aimes faire quoi, et sur ce qui est important.
C'est ça. Et si on avait des fonds illimités, on pourrait se dire « Ok, je change de thématique tous les 2-3 ans et j'essaye d'explorer le plus possible. » Parfois, c'est plus une question de réussir à cibler le sujet qui est au goût du jour et qui est susceptible d'être retenu.
Et ça, pour que je comprenne bien, parce qu'une fois plus, j'y connais rien, en fait, c'est à la fois c'est le chercheur qui fait à la fois donc, le travail de fond de recherche, mais qui doit aussi être le chef de projet financier, quoi. Comme si tu étais réalisateur et producteur du film, d'une certaine manière. C'est-à-dire que tu es à la fois là pour le financer et le vendre, et en même temps, et en plus, on peut quand même s'imaginer que ce n'est pas du tout les mêmes personnes qui devraient faire ça, parce que ce n'est pas les mêmes compétences. Je veux dire, un chercheur, c'est quelqu'un d'hyper attentif aux détails, j'imagine. Enfin, je ne connais pas bien, mais. C'est pas forcément quelqu'un qui va apprécier d'aller vendre son truc, quoi.
Oui, tout à fait. Non, c'est vrai qu'on a un peu toutes les casquettes. Et donc, dans le monde de la recherche académique ou gouvernementale, comme moi à la NASA, il faut que le chercheur a en fait la responsabilité de trouver ses propres financements. Postuler à différentes bourses nationales et de différentes institutions. pour ensuite réussir en fait à avoir les financements nécessaires à la mise en place du projet. Et ensuite, tout le travail aussi de reporting, de participation aux conférences, publications, pour rendre public et disponible tous ces résultats et pouvoir faire avancer la recherche dans son ensemble à l'échelle internationale. Donc, c'est vrai qu'il y a une grosse, grosse partie de rédaction et de collecte de fonds. Et aussi, bien sûr, il faut qu'on propose un budget sur plusieurs années.
Oui, c'est comme d'avoir ta petite entreprise, en fait, que tu finances, tu fais ta levée de fonds et ensuite tu dois te débrouiller. Enfin, c'est hyper... à la fois, c'est valorisant parce que du coup, tu es assez indépendant, j'imagine, mais quand même, oui. Ça veut dire que tu étais au four et au moulin, quoi.
C'est ça, exactement. C'est le prix à payer pour son indépendance, c'est vrai. Et là où ça devient un petit peu plus compliqué, c'est quand on commence à constituer des équipes sur des projets pour lesquels on est financé sur un ou deux ans, par exemple. Et donc là, pendant qu'on est en train déjà de... Pendant qu'on fait la recherche sur le projet obtenu, il faut bien sûr penser en amont et essayer d'anticiper la suite pour ne pas avoir à juste dire adieu à toutes les équipes une fois que le projet est bouclé.
Oui, bien sûr. Tu dirais aujourd'hui, alors peut-être dans le cadre de la NASA ou quand tu as été à d'autres postes, mais que finalement, ta répartition, ton temps entre le travail effectif que tu arrives à faire sur la recherche et toute cette gestion de projet, d'une certaine manière, et de quel ordre ?
Je dirais que la gestion de projet prend au moins 50% du temps. Alors ensuite, ça dépend... Là, on a d'autres personnes qui nous ont rejoints dans l'équipe à la NASA. Donc, maintenant, je peux consacrer encore plus de temps à la gestion de projet parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour effectivement mettre les mains dans le cambouis et être au labo, sortir les résultats.
D'accord.
Donc, ça dépend aussi beaucoup de la taille des équipes.
Bien sûr, bien sûr. Je passe un peu du coq à l'âne, mais j'avais lu une phrase quelque part que je crois est de toi et qui m'a pas mal marquée. Et je me suis dit si c'est effectivement de toi. Tu disais quelque chose comme un jour, un professeur à la fac m'a dit « Vous savez, Héloïse, il faut savoir rester à sa place. » Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de me barrer. Aujourd'hui, je suis très contente de ne pas être restée à ma place et je vous encourage à faire de même. Alors déjà, je ne sais pas si cette phrase est effectivement de toi.
Si, c'est effectivement de moi, oui. C'est vrai.
Génial. Et est-ce que tu peux me raconter du coup les circonstances de cet échange et comment justement tu n'es pas restée à ta place entre donc, cette petite fille sur son vélo rose qui faisait bien ses devoirs et qui avait l'air justement peut-être tu vois, de suivre le destin tout tracé qui était fait pour elle et puis ce coup de gueule à ton prof, ce qui est quand même pour une bonne élève une sacrée, tu vois, un sacré risque.
Oui, alors pour être totalement honnête, quand il m'a sorti ça, je n'ai rien dit.
D'accord, tu te l'as dit dans ta tête.
Exactement.
Très bien.
Mais oui, les circonstances, c'était pendant mes premières années à la fac en Alsace, donc la fac locale de ma région. J'avais une petite graine qui a été déposée dans ma tête. J'avais pris connaissance d'une école d'ingénieurs à Paris qui s'appelle l'ESPCI, l'École supérieure de physique et de chimie industrielle, et qui est une école assez particulière parce que c'est extrêmement pluridisciplinaire. Donc, en fait, contrairement au parcours classique scientifique, on n'a pas à choisir entre physique, chimie, biologie, mais on a plutôt une formation vraiment de corrélation entre toutes les disciplines pour essayer de voir si on peut aller un peu plus loin en ayant une vue globale à travers toutes les disciplines. Et donc, c'est vrai que c'était un petit peu l'école de mes rêves à ce moment-là. Il y a eu plusieurs prix Nobel qui sont sortis de cette école. Et moi, déjà, rien que Paris, j'y étais encore jamais allée. c'est vrai qu'avec avec mes parents, on voyageait vraiment pas beaucoup. Donc, ça me semblait...
Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que tu étais en Alsace, c'est ça, quand tu étais plus petite.
C'est ça, oui, c'est ça. Je suis alsacienne. Et donc, pour moi, c'était un grand pas. C'était quelque chose que je ne pensais pas forcément réalisable. Mais en tout cas, j'avais envie de me donner les moyens d'essayer au moins et de ne pas regretter d'avoir tenté. Et à ce moment-là, il y a un prof à ma fac à cette époque-là qui m'avait dit... tu sais, il faut faire attention de savoir quand même rester à sa place. Et avec du recul, je me dis, mais c'est quand même terrible de dire, de conseiller à des étudiants de savoir rester à leur place, parce que qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi en fait notre place ? Je pense que c'est vraiment la place qu'on se donne. Et je ne vois pas pourquoi on se restreindrait soi-même à tenter des choses si on s'en... Enfin, ce serait dommage de regretter de ne jamais avoir tenté, je pense.
Mmh. Et tu as des exemples peut-être de choses justement où tu as tenté, où tu n'es pas resté à ta place et où tu t'es t'es sorti de ta zone de confort, quoi, peut-être en allant aux États-Unis, je ne sais pas.
Oui, tout à fait. Oui, il y a eu plusieurs exemples comme ça de choses que je ne pensais pas réalisables, où je pensais clairement que j'allais me planter. Mais malgré tout, j'ai quand même essayé et au final, ça a fonctionné. Et donc, la première chose, c'était d'aller passer ces entretiens à Paris, d'aller dans une école où j'avais jamais mis les pieds, alors que la plupart des étudiants s'étaient préparés pour ça pendant des années et des années. Et donc, aller passer les entretiens, avoir la bonne nouvelle d'être prise, et alors là, je m'y attendais carrément pas du tout. Et puis ensuite, pendant ma thèse, de postuler à des prix, à des bourses pour avoir un petit supplément pour les recherches, c'est pareil. Il y a quand même une grosse compétition. Je ne pensais pas du tout que j'allais pouvoir en bénéficier. Et puis venir aux États-Unis, c'est vrai que postuler pour un postdoctorat à la NASA, ça non plus, je ne pensais pas que ça allait marcher. Mais comme dit, c'est vrai qu'il faut toujours tenter. Alors, bien sûr, il y a aussi beaucoup d'échecs. Hein, des bourses de recherche que j'ai déposées et que je n'ai pas obtenues, il y en a des dizaines. Mais malgré tout, parmi tout ça, il y a certaines choses qui marchent. Et ces choses-là font que finalement, ton parcours de vie va vraiment, vraiment changer.
Si on en prend un peu de recul, justement, sur le fait de ne pas rester à sa place, c'est une idée que j'aime beaucoup. Ça rejoint quand même un peu une idée d'ambition. Et je trouve ça hyper intéressant de se dire que même dans un milieu comme la recherche, où finalement, on peut se dire, en tout cas, quand on peut avoir des a priori, justement, en étant issu du milieu du privé, tu vois, que la recherche, en fait, c'est des métiers en fait, qui sont sur des temps tellement longs qu'au final, tu as l'ambition de réussir, tu vois, à atteindre ton projet et à aider. Mais tu peux, en fait, rester cantonné finalement dans d'une ligne qui est celle sur laquelle tu as commencé à travailler. Et je trouve ça très intéressant de se dire que même et peut-être surtout dans des milieux, dans des secteurs comme celui de la recherche, en fait, il y a une certaine importance de l'ambition et de vouloir faire bouger les choses, tu vois, et de vouloir ne pas rester à sa place.
C'est vrai. Et puis les choses aussi changent tellement vite et surtout dans le milieu de la recherche parce que tout est rendu disponible, tout est centralisé. Et donc, il y a des recherches qui se passent au Japon, aux US, en Europe, n'importe où, dans n'importe quel organisme de recherche. Chaque jour, il y a de nouvelles découvertes. Et donc, en tant que chercheur, il faut bien sûr se mettre au goût du jour et se dire, OK, donc maintenant, à cette heure actuelle-là, ce qu'on est capable de faire, comment je peux essayer d'aller un peu plus loin et d'essayer d'encore améliorer les choses. Mais il faut suivre ce rythme-là qui est en fait très, très rapide. Alors, même si ça ne veut pas dire que chaque jour, il y a une nouvelle découverte qui va effectivement changer la vie des patients et c'est cet objectif-là qu'on a tous, mais malgré tout, petit à petit, brique par brique, on arrive à aller un petit peu plus loin. Et donc, en tant que chercheur, il faut vraiment bien, bien identifier quelle est la prochaine étape.
Quand on est chercheur, pour toi, est-ce qu'on a envie de changer le monde? Est-ce qu'on a envie de laisser une trace? Enfin, je trouve qu'il y a un côté quand même assez fou de se dire que tu es en train de travailler sur comment trouver un diagnostic hyper avancé, tu vois, sur le cancer. Enfin, honnêtement, moi, ça me remet quand même pas mal en perspective ma carrière, je t'avoue, de te parler. Et je pense que ça sera peut-être le cas aussi pour pas mal d'auditeurs. Il y a un côté quand même assez dingue de se dire que, au niveau de l'impact, c'est le plus beau en fait que tu puisses avoir en fait en termes de carrière. Je sais pas si ça c'est quelque chose qui t'a motivé, ça a été un driver pour toi dans ta carrière.
Si, c'est sûr, et même au jour le jour, c'est vraiment la motivation qu'on a de se dire que voilà, on espère que au bout du compte on arrivera à avoir un impact effectif sur les patients, sur les médecins, mais on a conscience que ça c'est un effort collectif. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, Héloïse, qui vais du jour au lendemain réussir à sauver des centaines de personnes. Non, je travaille sur des domaines qui sont tellement pointus qu'effectivement, ça fait partie du processus pour réussir à trouver un remède, pour réussir à développer un dispositif qui va fonctionner. Mais c'est vraiment, ce sera moi parmi des centaines et des centaines d'autres chercheurs du même domaine. Donc, effectivement, je pense qu'on a tous l'objectif collectivement de réussir à avoir un impact.
Là, aujourd'hui, maintenant, si je ne me trompe pas, tu es à la NASA depuis quelques temps maintenant. Est-ce que tu peux m'expliquer, mais comment ça s'est passé en fait? Comment est-ce que tu as décidé de franchir le cap et de partir aux US pour continuer la recherche? Et puis justement, avec cette modification quand même, si je comprends bien, sur ta spécialisation, parce que maintenant, tu travailles, si j'ai bien compris, plutôt sur les radiations, pour juste comprendre quel avait été ce chiffre dans ta carrière et qu'est-ce qui avait fait que tu avais pris cette décision?
Oui, alors j'avais vraiment l'intention de revenir aux États-Unis. J'avais eu la chance d'avoir déjà un petit peu découvert le milieu de la recherche aux US pendant un semestre d'études et puis ensuite pendant ma thèse avec une collaboration avec un groupe du MIT. Donc j'avais eu l'occasion de voir un petit peu comment ça se passait du côté américain et c'est vrai que ça m'avait extrêmement bien convenu. J'adore la dynamique qu'il y a dans les équipes de recherche aux US vraiment cette culture de donner le meilleur de soi-même où concrètement je trouve au jour le jour on peut réellement le ressentir qu'il y a une motivation, un driver qui est quand même assez particulier aux États-Unis, je pense à la culture américaine j'avais envie de revenir, de passer plus longtemps, de voir si effectivement c'était peut-être une culture qui me correspondait mieux sur le long terme et ensuite ça s'est fait un petit peu au hasard des rencontres j'en ai vraiment parlé autour de moi, tout le monde était au courant que je voulais absolument revenir aux US après ma thèse. Et c'est quelqu'un qui m'avait dit, dans mon institut précédent en France, qui m'avait demandé si j'avais pensé à la NASA. Et c'est vrai que moi, j'y avais pas pensé du tout. Je veux dire, surtout quand tu fais de la biologie, tu sais pas le premier institut auquel tu penses. Et je pensais même pas que c'était vraiment possible en étant française, etc. Et donc, voilà, c'est de là que c'est parti, où j'ai commencé à faire un peu plus de recherches sur les différentes thématiques qu'il peut y avoir à la NASA. Et j'ai découvert ce département de Space Bioscience, où en fait, on essaye d'améliorer la santé dans l'espace et d'essayer de protéger les astronautes contre les différents stress qu'il peut y avoir, donc microgravité, radiation cosmique, isolement psychologique.
D'accord.
Et du coup, maintenant, effectivement, je travaille sur l'impact des radiations cosmiques sur le développement de cancers. Donc, c'est toujours dans la thématique des cancers. Et en fait, j'étudie les mêmes biomarqueurs que ceux que j'avais commencé à étudier déjà pendant ma thèse. Mais cette fois, c'est en réponse aux radiations cosmiques. Et donc, c'est vraiment super intéressant parce que j'apprends énormément d'un point de vue scientifique. C'est un peu une niche, en fait. Il n'y a pas...
Oui, c'est clair.
Il n'y a pas énormément de sujets qui touchent à ça. Et en même temps, je ne pense pas vouloir en faire toute ma carrière parce que je sais que là, les recherches que je fais, elles vont certainement servir à une dizaine d'astronautes qui iront sur Mars peut-être dans 20-30 ans. Mais j'ai envie de vraiment revenir sur quelque chose de plus direct, centré sur le patient, même si j'ai toujours en tête que l'impact des radiations cosmiques sur notre santé est aussi très similaire à l'impact, par exemple, qu'on peut avoir en radiothérapie sur la formation de tumeurs secondaires. Donc, c'est un petit peu ma motivation de me dire, OK, ce que je fais pour l'espace, même si c'est super excitant et c'est vraiment passionnant, mais ça peut aussi avoir un impact plus direct sur Terre, sur des patients qui sont en souffrance actuellement.
Et alors, j'imagine qu'il y a des clauses de confidentialité dans tous les sens et tout, mais concrètement, enfin, le jour où on te dit « Ok, c'est bon, tu peux aller travailler à la NASA, mais tu dois être quand même assez, assez comme une dingue. Enfin, » qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Est-ce que tu y croyais? Enfin, tu devais être assez ravie, non, je pense?
Ouais, j'avoue, j'étais tellement heureuse. Ouais, c'était vraiment une nouvelle formidable. J'espérais vraiment. D'ailleurs, j'avais eu d'autres offres entre-temps. pour venir travailler aux États-Unis. Et du coup, j'avais eu la grosse question de se dire, OK, est-ce que je refuse en espérant pouvoir aller à la NASA ou j'accepte ce que j'ai et puis, de toute façon, la probabilité d'obtenir la NASA est tellement faible que je perds pas grand-chose. Et donc, j'avais finalement fait le choix de tenter ma chance, de refuser les autres opportunités en espérant que ça allait marcher. Et c'est vrai que j'ai pas regretté. Parfois, il faut juste suivre son instinct, faire confiance au destin et puis les choses viennent naturellement.
J'avoue, c'est génial. Tu as bien fait d'avoir confiance en ta bonne étoile. Et alors aujourd'hui, donc, tu nous as expliqué en deux mots ton job, en tout cas dans des termes, et je te remercie, dans lesquels moi je peux comprendre à peu près. Mais concrètement, à quoi ressemblent tes journées? À quoi ressemble une journée d'Héloïse à la NASA? Qu'est-ce que tu fais? Combien de temps ça dure? Est-ce que tu es en équipe? Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu peux me prendre par la main, tu vois, et m'expliquer, pas heure par heure, mais quand même assez précisément à quoi ça ressemble une journée d'Héloïse?
Oui, donc on travaille en équipe. En fait, il y a différents niveaux d'équipe. Donc, on a notre équipe vraiment proche qui travaille exactement sur la même thématique avec différents sous-projets, on va dire. Il y a certaines personnes. Donc, on est une équipe d'à peu près 5-6 personnes. Et il y a certains projets qui vont plus se spécialiser sur l'impact des radiations cosmiques au niveau du cerveau, par exemple, ou alors moi, j'essaye de trouver des biomarqueurs circulants, des biomarqueurs précoces de l'impact des radiations. Donc, ce sera différents sujets, mais tous portés sur vraiment les radiations cosmiques. Et ça, ça fait partie ensuite d'une branche un peu plus grande, d'une cinquantaine de personnes, on va dire, qui étudie les différents stress liés au voyage cosmique. Donc, comme je disais, microgravité, etc. Et donc, au sens un peu plus large. Et donc, toutes ces équipes, en fait, on est regroupées dans un bâtiment collaboratif. Et donc, comme ça, on peut avoir pas mal d'équipements en commun et énormément d'interactions entre les équipes. Et donc, concrètement, en fait, nos journées, c'est finalement quand même plutôt au bureau à écrire de nouveaux projets, faire des propositions, construire des budgets pour essayer d'avoir d'autres financements pour les projets du futur. Et puis aussi analyser toutes les données qu'on peut collecter pour essayer de comprendre, parce que maintenant, on a des technologies et des instruments qui sont tellement sophistiqués que en quelques minutes, on peut collecter des milliers de data et ensuite il faut essayer de faire le tri dans tout ça et d'interpréter vraiment toutes ces données pour répondre aux questions qu'on se pose.
Oui, donc le souci à ce stade, c'est pas tellement de récolter des infos, c'est plus d'essayer de les trier, de les rationaliser et d'en tirer surtout, j'imagine, des enseignements qui te permettent tous les jours d'avancer un petit peu plus, quoi.
C'est exactement ça, oui.
Tu disais quand même, quand on a commencé à parler de la NASA et des US et du fait que tu voulais retourner aux US, que ça m'a un peu marqué, que tu disais que tu trouvais quand même que la recherche et l'état d'esprit aux US étaient assez différents. Est-ce que pour toi, le métier de recherche, justement, est fondamentalement différent aux États-Unis et en France? Enfin, on dit souvent que les études ne sont pas les mêmes, que l'état d'esprit américain n'est pas le même, et ce n'est pas pour jeter la pierre à l'un ou à l'autre pays, mais juste pour comprendre justement quelles sont les différences en fait, que toi, tu constates ayant travaillé dans les deux pays, dans le milieu de la recherche.
Oui, alors en tout cas, par rapport aux expériences que j'ai pu avoir, et j'imagine que d'un laboratoire à un autre, ça peut aussi être extrêmement différent, peut-être même encore plus que d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, dans les laboratoires où j'ai pu avoir accès, j'ai eu l'impression que c'est vrai qu'aux États-Unis, déjà d'un point de vue juste de l'éducation, en fait, les études pour avoir un doctorat, ça prend en général beaucoup plus longtemps. Les thèses sont plus sur une période de 5-6 ans. En France, en 3 ans, on obtient son diplôme de doctorat après master. Et donc, c'est vrai que rien que de ce point de vue-là, les perspectives sont un peu différentes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, souvent, on va prendre son temps d'avoir accès à différentes thématiques, à vraiment... avoir tout de suite les pieds dans le bain, on va dire. C'est comme quand j'ai pu faire 6 mois d'études aux US. En fait, j'étais pratiquement jamais en cours. Et la plupart du temps, j'étais directement associée à un labo. Et en fait, les cours que je choisissais, c'était exactement en fonction des problématiques que j'avais concrètement dans mon projet de recherche. Et donc, très, très tôt, j'étais exposée à ça. ce qui te permet d'avoir une vue vraiment pratique, concrète. Et en même temps, j'ai adoré pouvoir avoir les deux parce que je trouve qu'en France, on a vraiment un bagage théorique extrêmement solide qui fait que derrière, ben, tu peux assez rapidement acquérir les compétences pratiques, mais tu sais que tu as le bagage pour comprendre toute la théorie qu'il y a derrière. Et ensuite, dans le monde du labo concrètement, j'ai trouvé que aux États-Unis, il y a peut-être moins de barrières entre vie privée et vie professionnelle. C'est-à-dire que être chercheur, ça va être ce qui te caractérise, ça va être ce qui donne du sens plus globalement à ta vie et qui va prendre le dessus sur la famille, les activités professionnelles. Et en fait, ça va, ton boulot, ça va vraiment être ta passion. Alors, bien sûr, il y a aussi énormément de chercheurs passionnés en France, mais j'ai l'impression que de façon générale, il y a peut-être moins de barrières entre vie privée et vie professionnelle aux US.
Et ça, tu le vois comment? Parce que tu constates que les gens, pour parler concrètement, passent plus de temps au travail ou on parle tout le temps à leur famille. Enfin, qu'est-ce qui te fait, je comprends ce que tu veux dire, mais concrètement, qu'est-ce qui te fait ressentir ça?
Oui, par exemple, on passe la plupart de nos week-ends aussi au labo. Enfin, je veux dire, s'il y a un besoin, si notre expérience, etc., est en cours et que, il faut venir le samedi, etc., ça va poser aucun problème. Et on sait qu'on va pouvoir facilement trouver du soutien, de l'aide dans les équipes parce que ça semble juste naturel, en fait. Et c'est aussi dans les passions de tous les jours. Donc, on va passer énormément de temps en conférence, dans des foires scientifiques. Ça va être, tout va tourner autour finalement de cette passion. Après, ça peut aussi être dû au fait qu'on est à la NASA et qu'en général, la plupart des chercheurs à la NASA sont des passionnés d'astrologie, d'espace et de tout ce qui tourne autour. Donc, le sujet aussi est peut-être plus amène de regrouper des personnes qui, même dans leur vie privée, sont vraiment très, très portées sur l'espace.
Bien sûr. Justement, en parlant de vie privée, tu es une femme je sais que tu es assez engagée justement sur la cause notamment de la place des femmes dans les milieux scientifiques, qui, on le sait, évidemment pas aussi représentée que les hommes. Et je voulais te demander si le fait d'être une femme, alors c'est un peu bateau hein, comme question, j'aime pas tellement, mais je vais quand même te la poser. C'est en quoi est-ce que peut-être être une femme a été une aide ou au contraire un challenge? Enfin, pour toi, ce rôle de rôle modèle en fait, d'être une femme scientifique, en quoi est-ce que c'est important pour toi?
C'est vrai que j'ai pas vraiment eu d'obstacles durant mes études, etc., en tant que femme, pour se lancer dans un milieu scientifique. Alors, peut-être que ce qui a aidé aussi, c'est le fait d'avoir toujours été en interaction avec la biologie, où on sait que c'est un domaine qui, en général, attire aussi plus de femmes. Donc, en général, dans mes études, il y avait à peu près 50% de femmes et d'hommes dans les promotions. Donc, j'ai jamais vraiment senti cette différence entre femmes et hommes. Mais j'ai l'impression que c'est plus dans nos esprits où parfois on peut se mettre une barrière soi-même, personnelle, à se dire « Ah, mais est-ce que vraiment je vais avoir ma place dans le milieu scientifique alors que je suis une femme ?» Et c'est vrai que c'est pour ça que j'aimerais qu'on montre plus de rôle modèle féminine, juste pour montrer que en fait c'est totalement possible et il n'y a vraiment aucune barrière à se mettre parce qu'il n'y a aucune raison de se restreindre, parce que
au contraire, comme tu le dis, en plus excuse-moi, je suis désolée, je t'ai complètement interrompue, mais je dis, en plus, comme tu le dis, au final tu n'as pas eu de barrière particulière parce que tu étais une femme, quoi. C'était presque plus ta barrière mentale à toi-même qui était que tu avais peut-être un petit syndrome de l'imposteur ou en tout cas un manque de confiance en toi, mais c'était pas du tout je pense que c'est important de le dire aussi, quoi. C'était pas du tout qu'on t'a dit non, tu ne seras pas scientifique parce que t'es une femme.
Exactement, totalement. Et en plus, je trouve que les nouvelles générations sont vraiment s'améliorent grandement dans ce dans ce domaine. Et donc, au niveau des études, en tout cas, je n'ai jamais ressenti de différence entre une femme et un homme. Après, dans le monde réel, où on a aussi plus d'interactions avec d'autres générations, c'est vrai que parfois, malheureusement, on ressent encore cette différence. Et je dirais qu'il faut continuer à se battre. Et j'ai l'espoir que dans quelques années, tout ça, ça va changer. Et effectivement, ce qu'on peut ressentir dans les nouvelles générations va continuer à aller dans le bon sens. Mais c'est vrai que parfois, ça reste encore difficile. Tout simplement, pour donner un exemple, c'est vrai que en conférence, etc., parfois, on peut avoir des comportements qui sont tout à fait inacceptables, juste parce que voilà, juste en étant une femme, alors que c'est regrettable. Mais je pense, j'ai bon espoir pour les générations à venir que ce comportement change.
Et quand tu as pu être confrontée à ce genre de comportement, peut-être pour donner un conseil aussi à des personnes qui pourraient être soumises à ça, parce que finalement, c'est dans le milieu de la recherche, mais ça peut être aussi sincèrement dans n'importe quel autre secteur. Comment tu réagis, en fait? Pour toi, quels sont des conseils peut-être que tu pourrais donner, comment faire justement pour imposer sa place, enfin, pas l'imposer de manière forcée, mais je veux dire ne pas se laisser faire et justement montrer en fait qu'on est exactement là où on devrait être.
Je dirais que le meilleur moyen, c'est de stopper directement ce type de comportement en vraiment tournant le dos à ces personnes et en montrant que voilà qu'on a bien compris les intentions et qu'on ne rentrera pas dans ce jeu-là parce que on est là pour la science et on a sa place exactement comme chaque autre personne du milieu scientifique. Donc je dirais surtout garder sa confiance en soi. Et montrer que ce n'est pas quelque chose qu'on accepte. Et se tourner vers les personnes bienveillantes.
Oui, bien sûr. Ça, c'est sûr que s'entourer des bonnes personnes, c'est toujours assez crucial.
Oui, effectivement.
Héloïse, pour terminer à chaque fois la conversation, en fait, je pose des questions un petit peu plus personnelles, un peu moins sur le parcours, si ça te va. La question que je pose souvent, c'est est-ce que tu as vécu un moment difficile, un moment de doute, un échec? Et surtout, quel enseignement tu en as tiré dont tu pourrais nous parler?
Oui, alors, il y a eu beaucoup d'échecs, je dirais, liés à ce milieu de la recherche. Donc, quand on passe des semaines à travailler sur un projet qui nous tient à cœur, ou un projet auquel on croit et qui n'est finalement pas retenu, pas financé, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut mettre un peu des doutes sur le sens de ce qu'on fait. Je dirais les enseignements qu'on peut en retirer, c'est le fait que voilà, c'est un échec, c'est effectivement plusieurs semaines de travail, mais à relativiser sur toute une carrière, et que on peut toujours améliorer. C'est-à-dire que effectivement, si ça n'a pas été retenu, c'est sans doute qu'il y a encore beaucoup beaucoup de travail à faire et de remise en question. Et effectivement, c'est vrai que d'un autre côté, on peut l'accepter ou non, c'est-à-dire que c'est un petit peu les règles du jeu et après, c'est à soi-même d'évaluer si on continue à jouer dans ce jeu-là ou si finalement c'est trop difficile et on décide d'arrêter. C'est vrai que parfois, moi, je me pose la question de si je continuerai à faire de la recherche toute ma vie ou alors en tout cas de la recherche académique. Mais il y a tellement de possibilités que je dirais il faut pas non plus se forcer à continuer à s'acharner à jouer un jeu qui nous convient pas forcément et c'est bien de rester ouvert à aussi un petit peu d'autres opportunités, c'est-à-dire qu'il y a par exemple de la recherche qui est faite dans le monde privé industriel et qui peut être aussi extrêmement intéressante où du coup il y aura pas forcément cette question de recherche de financement constante.
Oui, bien sûr.
Et donc, c'est une bonne expérience à avoir et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va s'enterrer là-dedans tout au long de sa carrière.
Oui, bien sûr. Rien n'est complètement, tu vois, irrévocable et on peut changer. Et j'imagine que quand tu vis des non, ça doit être hyper dur si tu as bossé des semaines sur un projet. Mais comme tu le dis, si je comprends bien très justement, c'est que bah, déjà, il y a non seulement la sphère du privé qui potentiellement pourrait être une option un jour, mais en plus, tu peux quand même retravailler, faire pivoter peut-être un petit peu ta recherche pour que la prochaine fois, en fait, ça soit pris. Donc, en fait, ne pas aussi... se dire, bah, c'est définitif, en tout cas ce sujet, je vais jamais pouvoir l'aborder, quoi. Essayer de contourner finalement le non.
Oui, tout à fait.
Une autre question que je voulais te poser, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans ta carrière jusqu'à présent, alors qu'elle n'est pas encore terminée du tout, mais malgré tout, s'il y avait quelque chose à refaire, qu'est-ce que tu penses que tu referais différemment?
Je pense que, alors, c'est pas forcément exactement ce qu'on... la première chose à laquelle on penserait dans une carrière, mais je dirais que un regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir été suffisamment ouverte sur tout ce qu'il y a autour, en fait. C'est-à-dire que j'ai toujours été extrêmement investie dans chaque étape de mes études et de ma carrière. Donc, je donne vraiment tout à l'instant précis et à mes études du moment. Mais en fait, c'est aussi super, super important de rester ouvert aux autres domaines. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en venant d'une famille d'artistes, peut-être que j'ai un peu le regret et maintenant j'essaye d'y revenir, mais tu vois, d'avoir laissé de côté cet aspect-là parce que c'était totalement décorrélé de ce que je faisais de mes études de scientifique et je ne voyais pas vraiment forcément l'intérêt ou le besoin de continuer à garder ce lien-là. Alors que finalement, c'est ce qui te permet de garder un équilibre et même de te donner de l'inspiration qui sorte un petit peu du cadre.
Et aujourd'hui, justement, tu t'es remis à t'intéresser à tout ce qui est artistique, peut-être du théâtre, tu me parlais de théâtre ou peut-être de l'art pictural plutôt.
Ouais, exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment mes bouffées d'oxygène d'aller dans les musées, etc. Et de voir des choses complètement différentes et aussi de participer à des événements où tu vas être en contact avec des personnes qui sont... Qui en fait exercent des professions complètement différentes où tu n'as jamais eu vraiment d'interaction par le passé et où en fait tu peux faire plein de liens entre les challenges et les leçons de vie auxquelles ces personnes-là ont pu aboutir et puis toi dans tes problématiques personnelles, comment tu peux faire le lien, comment tu peux faire la transition.
C'est clair. T'as tout à fait raison et je pense que ça s'applique énormément au monde privé aussi où finalement tu vois entre quelqu'un qui travaille uniquement au marketing s'il ne fait dans une boîte de luxe je sais pas et qui ensuite ne fait que des rencontres en fait avec des personnes de ce type va avoir une vision qui est assez étriquée finalement de son propre métier et de sa carrière alors qu'il y a des passerelles en fait qui peuvent se faire avec des milieux artistiques, avec des milieux scientifiques qui sont hyper riches et qui je trouve permettent de énormément s'enrichir tant au niveau personnel que pro, quoi.
Ouais, totalement. Et ça te permet aussi de relativiser un petit peu les difficultés que tu peux avoir dans ton métier.
C'est clair.
Sont minimes.
Puis surtout, ce qui est drôle, je trouve, c'est que bien souvent, on se rend compte que les difficultés qu'on a spécifiques à son métier, en fait, sont pas si uniques que ça. Mm-hmm. Et que même si, tu vois, ne pas réussir à arriver à son objectif, toi, ton objectif, par exemple, c'est quelque chose de très scientifique. Bon, moi, je vais pas avoir la même problématique, mais au final, on a tous un peu les mêmes raisonnements et les mêmes problèmes malgré tout. Et donc, je trouve que le fait de les partager, c'est quand même assez soulageant.
C'est vrai.
Je voulais te demander aussi si tu avais une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager, une phrase peut-être qui te tient particulièrement à cœur, une citation ou juste en fait une réflexion que tu aimerais nous partager.
Oui, ça peut peut-être paraître étonnant de venant d'une scientifique, mais c'est vrai que moi je pense souvent à ma bonne étoile et c'est quelque chose que j'ai gardé depuis toute petite en fait où je me disais voilà ma naissance était peut-être un accident je connais pas mon père je suis pas forcément arrivée dans la famille qui m'attendait le plus mais en contrepartie en fait je pensais toujours un petit peu à une sorte de bonne étoile qui en fait m'avait fait arriver là et qui En fait, c'est un petit peu comme, tu vois, un regard bienveillant qu'on peut imaginer sur soi-même, de se dire, ben, ok, même si je tente des choses un peu folles, même si j'essaye de sortir de ma place, en fait, il n'y a rien vraiment qui puisse m'arriver. Il n'y a pas vraiment de risque. Enfin, je peux prendre les risques parce que dans le pire des cas, il n'y a rien de terrible qui peut m'arriver. Et c'est le fait de se porter même un peu sur soi-même, un regard bienveillant et de confiance en soi, de se dire, voilà, ben, juste essaye, tente les choses. Et puis, dans tous les cas, ça va bien se passer.
C'est clair. Tu as des mentors ou des personnes que tu admires particulièrement, qui t'inspirent au quotidien, que tu connais ou que tu ne connais pas d'ailleurs ?
Ouais, dans mon quotidien, je dirais qu'à chaque fois, dans toutes les équipes, tu sais, il y a un petit peu tout le monde autour de toi qui peut vraiment t'apporter quelque chose et où tu peux essayer de tirer un peu le meilleur de chacun. Moi, en ce moment, par exemple, à la NASA, j'ai des personnes qui sont extrêmement passionnées et extrêmement dynamiques aussi et où j'essaye un petit peu finalement d'imiter, tu sais, comme je peux, de prendre le meilleur pour essayer d'être plus efficace. Et je pense que c'est un peu comme ça tout au long de sa vie. On fait des rencontres où chaque personne a un peu un point fort qu'on admire et on peut essayer de prendre un petit peu le meilleur de tout ça pour avancer de façon plus efficace.
Tu aurais un exemple peut-être de quelque chose Voilà, quelque chose que tu as remarqué, sans citer de nom, bien sûr, mais quelque chose que tu as remarqué qui t'a bluffé et où tu t'es dit, mais en fait, c'est fou, il faut que j'arrive à faire la même chose.
Ouais, par exemple, une personne avec qui je travaille vraiment au quotidien, hein, qui est absolument formidable dans le sens où dès qu'il y a quelque chose d'inattendu, quelque chose qui semblerait un petit peu vraiment une grosse difficulté, cette personne va dire, ouais, mais ça va être simple, allez, on prend, on commence, on prend les choses à bras-le-corps et c'est facile à apprendre, c'est facile à surmonter, vraiment dans le sens de se dire, il n'y a rien qui est impossible, ok, on va juste prendre étape par étape et ça va marcher. Et effectivement, à la fin, on y arrive.
Ouais, c'est ça qui est dingue. Héloïse, ma dernière question, c'est toujours la même, parce que moi, je suis une littéraire de formation. Et la question, c'est est-ce que tu as un livre ou des livres que tu recommandes particulièrement ou qui t'ont particulièrement marqué dans ta vie ? Et si oui, est-ce que tu peux m'en parler, s'il te plaît ?
Oui, je dirais que c'est une lecture récente. Ça a été la biographie de Tara Westover. Le livre est intitulé « Educated ». Et c'est l'histoire de cette jeune fille qui a maintenant autour de 30 ans, je dirais, et qui est née dans une famille de mormons, donc des mormons vraiment, vraiment fondamentalistes religieux. En fait, elle est née dans cette famille où on applique la Bible vraiment au sens strict. Son père est adepte du survivalisme, donc tu vois à l'approche...
Ça, je ne vois pas bien ce que c'est.
C'est-à-dire à l'approche du nouveau millénaire, par exemple, son père est persuadé que tout va s'effondrer, donc il faut faire des réserves alimentaires pour les 10 prochaines années. Ils prennent pas accès à l'électricité locale, ils produisent toute leur énergie eux-mêmes avec des panneaux solaires, etc. C'est vraiment essayer de ne pas avoir de lien avec la civilisation pour être indépendant au maximum. Et donc, il ne croit pas au système éducatif. Tara, elle est née sans carnet de santé, sans acte de naissance, etc. Donc, d'un point de vue de la société, elle n'existe pas. En fait, tu vois qu'elle a une volonté de malade. Elle étudie par elle-même, en fait, à la maison pendant le peu de temps libre qu'elle a, quand elle n'a pas besoin d'aider son père à travailler dans la maison, dans le jardin, etc. Elle étudie pour pouvoir rentrer au collège local. Et en fait, tu suis un peu son histoire et elle a été... Elle a vraiment eu un parcours assez incroyable. Elle a même fini à Cambridge au fur et à mesure de toutes ces aventures. Et en fait, ce qui est super intéressant dans ce livre, c'est que tu te rends compte de sa prise de conscience, dans le sens où quand elle est petite, ce qu'elle connaît, c'est uniquement sa famille et ses différentes valeurs qui viennent directement de la Bible et où, en fait, il n'y a pas vraiment de remise en question. Les règles sont définies par son père et sa famille. Et au fur et à mesure, tu vois que quand elle prend conscience et elle commence à avoir accès à sa propre éducation, elle remet en fait en question toute cette culture qui lui a été transmise pour pouvoir s'affirmer et faire le choix de ses propres idées. Et en fait, j'ai trouvé ce livre vraiment fort parce que d'un côté, il montre que rien n'est impossible, même dans les pires conditions. Je veux dire, c'est difficile d'avoir des conditions aussi défavorables à l'éducation. Mmh. Et aussi l'importance d'essayer de se rendre plus indépendant. Et en fait, plus tu acquiers de connaissances et d'ouverture d'esprit, et plus en fait, tu as la possibilité de faire des choix qui te ressemblent et qui sont vraiment, vraiment plus personnels.
Hyper, hyper intéressant. Franchement, tu en parles très, très bien. Et je t'avoue que ça me donne très envie de le lire et de le découvrir. Je ne connaissais pas du tout, mais je vais mettre tout ça, en tout cas, dans les notes de l'épisode. Héloïse, merci mille fois pour ton temps. Merci d'avoir accepté ce rendez-vous. Si on te cherche sur le monde merveilleux du web, si jamais on souhaite te contacter, te suivre, est-ce qu'il y a un moyen de le faire à privilégier ?
Via LinkedIn, je pense que c'est le plus simple. Je suis en général assez réactive. Oui.
Génial. Héloïse, merci pour ton temps. Je te souhaite une excellente journée, du coup. Et puis, je te dis certainement à bientôt.
Merci beaucoup, Pauline. Bonne journée.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du6gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection. Donc sous le pseudo Pauline Léniaud, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi et je sais que c'est pénible à faire mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles ou que vous parlez du podcast autour de vous ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute et avoir des notes en fait permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes, c'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes, donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.